8h passées de 3 minutes sur Aligre FM 93.1.
Des objets de méditation extraordinaires.
Vous êtes avec Clément comme tous les mercredis de 8h à 9h. Et aujourd'hui, nous parlons réforme constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire, sombre réforme technocratique et anecdotique ou enjeu central dont les citoyens doivent se saisir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans une émission en partenariat avec l'Association pour une constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'Association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Alors vous l'aurez compris, nous revenons aujourd'hui sur le projet de révision de la Constitution et de réforme des institutions porté par le gouvernement. Et pour rendre tout ça intelligible, je suis en compagnie de Pascal Gégère. Vous êtes un citoyen, membre de l'Association pour une constituante.
Bonjour, oui, je suis un simple citoyen, pas du tout juriste et encore moins constitutionnaliste. Donc je vais essayer d'apporter un regard un peu de néophyte sur effectivement cette réforme institutionnelle.
Et nous avons également Loïc Gourdon par téléphone.
Oui, eh bien je suis également membre de l'Association pour une constituante. Je suis président du Cercle de Nantes. Et comme mon ami Pascal, je n'ai aucune prétention à une connaissance juridique. Je suis un citoyen qui s'intéresse à la marche du pays et particulièrement au développement de la laïcité.
Ok, donc des citoyens comme il en faut, avec qui nous allons discuter de ces réformes, de ce qui se passe en ce moment. Donc l'avant-projet de loi constitutionnelle a été transmis ces derniers jours au Conseil d'État, avant d'être présenté en Conseil des ministres le 9 mai. Donc on est en ce moment en discussion, notamment avec les présidents des deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc peut-être un premier mot, est-ce que ce projet qui peut sembler technocratique, qui peut sembler anecdotique peut-être à certains, est-ce que c'est un véritable enjeu? Est-ce que c'est juste quelque chose comme ça, anecdotique?
C'est pas du tout anecdotique, c'est quelque chose d'important puisque la réforme institutionnelle va porter sur une modification assez conséquente de la Constitution. Et il faut savoir que la Constitution est bien la loi fondamentale de l'État et c'est celle-ci qui va à un moment donné fonder la souveraineté du peuple. Donc modifier la Constitution n'est pas sans conséquence sur la capacité du peuple à s'exprimer, ce qui est important de voir, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse à l'Association pour une constituante, c'est de savoir en quoi cette réforme va soit consolider, donc renforcer, soit limiter, soit amputer la souveraineté du peuple. C'est en ça qu'il convient de s'intéresser à cette future réforme.
Loïc ?
Oui, bien entendu, hein, je ne peux que souscrire aux propos de Pascal, étant entendu que, de notre point de vue, la Constitution de 58 n'est pas une Constitution démocratique, mais une Constitution de nature bonapartiste, hein, puisqu'elle permet au président de disposer d'une majorité, alors même qu'il est minoritaire. N'oublions pas que l'actuel président a été élu par 18% du corps électoral au premier tour de la présidentielle.
Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire modifier une constitution ?
Mais il faut déjà finalement revenir à cette notion de constitution. Vous l'avez compris, contrairement par exemple au Royaume-Uni, où la constitution est plutôt d'ordre coutumier, hein, c'est pas un texte écrit en France, c'est un texte écrit qui va regrouper ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, à savoir, Loïc vient de le dire, la constitution de 58, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le préambule, et on l'oublie souvent, de la Constitution de 46 qui confère aux citoyens un certain nombre de droits, et la Charte de l'environnement, et puis un certain nombre de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais ce qui est important à maîtriser, c'est donc j'ai dit que c'était la loi fondamentale, c'est-à-dire que la Constitution, ça pose le pouvoir de l'État, parce que l'État a la capacité, donc au travers de cette Constitution, d'écrire sa loi et de faire appliquer cette loi. C'est le pouvoir de coercition de l'État, mais on va le voir, et Loïc va nous aider là-dessus, que la souveraineté du peuple ne se traduit pas simplement par cette Constitution. Elle s'adosse également sur un certain nombre de concepts tels que l'autorité de l'État. Et on va voir que l'autorité de l'État a été mise à mal aujourd'hui, notamment si on regarde l'actualité, à savoir l'alignement de la France sur une autorité qui est externe, à savoir celle des États-Unis concernant la frappe syrienne. Mais elle est également portée par la cohésion nationale, et la laïcité en fait partie. Et là également, mais Loïc nous le dira, sur le discours un peu inquiétant du président sur lors du rencontre des évêques de France au collège des Bernardins, et puis également sur la capacité de la France à avoir une certaine aura, un certain charisme, donc finalement cette influence extérieure. Mais je reviens sur cette Constitution qui, au niveau de la France, est écrite. Je viens de le dire qu'elle fonde la souveraineté de l'État au travers de l'exercice de celle-ci par le gouvernement et l'exécutif en général. Et puis elle va garantir son caractère inaliénable. Cependant, il faut savoir, lorsqu'une constitution finalement, affirme une liberté individuelle ou un droit de portée générale, elle le restreint toujours par en ajoutant que cette liberté ou ce droit s'exerce dans le cadre de la loi. Donc une loi pourra toujours corseter les principes généraux de la constitution au bon gré du pouvoir en place. Donc c'est ce qu'il faut voir. La Constitution n'est pas un texte intangible, hein, n'est pas un texte figé. Il est normal qu'elle évolue en fonction des avancées morales et éthiques contemporaines que génèrent les progrès scientifiques, économiques et sociétaux dont bénéficie le peuple. Mais encore faut-il que ces évolutions s'inscrivent dans une perspective dictée par le service d'intérêt général et non pour faciliter la quête d'un avantage politicien.
Elle a beaucoup évolué, cette Constitution ?
Absolument, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été figée, loin de là, puisque nous avons jusqu'à présent, depuis le début de la Ve République, 24 modifications de la Constitution. Et on peut voir que finalement, les exécutifs et les parlementaires qui se sont succédés ont pris bien des libertés avec la Constitution initiale. On va détailler cette réforme institutionnelle, à savoir au travers de ces différentes lois. Mais quand on regarde finalement ces différentes modifications, on s'aperçoit que plusieurs d'entre elles ont amputé la souveraineté du peuple en transférant des pans entiers à des technocrates de l'Union européenne. Et je fais référence dans la Constitution au titre 15, à savoir où on a donné au travers d'une des réformes constitutionnelles de juin 92, le traité de Maastricht, ou celui de 99, le traité d'Amsterdam, on a transféré des compétences relativement importantes au niveau de la communauté européenne.
Loïc Gourdon, on a perdu la souveraineté récemment avec ces modifications constitutionnelles ?
Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de Pascal. C'est une réalité. Et puis, les mesures que le gouvernement tente de mettre en place vont certainement encore aggraver les choses.
Alors, vous nous parliez à l'instant de principes généraux qui peuvent être présents dans cette Constitution. Dans quelle mesure ces principes généraux sont susceptibles d'évoluer ? A priori, on pourrait penser qu'un principe général valable en 58 est encore valable aujourd'hui. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'évolution de la Constitution peut être justifiable ?
Je ne sais pas si elle peut. Les différentes évolutions de la Constitution peuvent être justifiables. En tout cas, on peut, pour certaines d'entre elles, ces évolutions, les justifier. Alors, les justifier, ça ne veut pas dire les approuver, mais de voir effectivement que le monde moderne, entre guillemets, a influé d'une manière considérable sur la Constitution, notamment une influence anglo-saxonne, au travers, par exemple, je parlais du transfert des compétences, mais il y a à l'intérieur même de notre évolution constitutionnelle, une réforme constitutionnelle qui a été, à mon sens, assez perverse. C'est la réforme constitutionnelle de 2000 sur la réduction de la durée du mandat du président. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 ans au quinquennat à 5 ans. Ça, c'est vraiment une vision anglo-saxonne. Hein. C'est-à-dire que donner des prérogatives plus grandes au président. Et il faut savoir que cette loi a été approuvée constitutionnelle par un référendum à 73%, mais avec 70% d'abstention. Alors, en soi, cette loi n'avait rien. On aurait pu effectivement trouver que, compte tenu de la modernité, il était normal qu'un président ne dure que 5 ans et qu'il y ait un renouvellement de la tête de la République. Sauf que, en 2002, il y a eu une loi organique qui a modifié finalement l'organisation du parlementaire, puisque je rappelle qu'une loi constitutionnelle va modifier la Constitution, mais une loi organique, qui vient tout de suite après dans la hiérarchie des normes, va modifier finalement l'organisation des assemblées. Mmh. Hein, c'est une loi. Et puis après, vous avez les lois ordinaires. Et une loi organique en 2002 qui, sous couvert de donner au président fraîchement élu une majorité forte pour qu'il puisse mener sa politique, on a inversé le calendrier électoral. Conséquence immédiate, on l'a vu, et les dernières élections le prouvent, on a vu des parlementaires finalement devenir des vassaux du président de la République, à savoir, en fait, il y a bien, entre guillemets, une espèce de hiérarchie qui s'est instaurée et fait en sorte que eh bien, la voix du président porte, et on le verra dans les propositions de loi et celles qui ont été approuvées par le passé, que finalement c'est bien l'exécutif, au travers du président et du gouvernement, qui tiennent finalement les cordons de la direction législative de la France.
Alors effectivement, si on regarde un peu les chiffres des dernières élections, donc au premier tour des présidentielles, la France insoumise par exemple fait 20% au président, donc aux élections présidentielles. Elle n'obtient que 17 députés aux législatives. Le FN fait 20%, il n'obtient que 8 députés. La République En Marche fait 25%, donc 5 points de plus, et obtient 311 députés, donc majorité. Et il peut gouverner le parti, et donc le gouvernement peut gouverner seul. Donc une proposition en réponse à cela, présente dans cette réforme, c'est d'introduire une dose de proportionnelle, donc à hauteur de 15% pour les prochaines législatives 2022. Donc là, on pourrait avoir le sentiment que Macron, que le gouvernement, effectivement, reconnaît cette trop forte emprise de l'élection présidentielle, du pouvoir exécutif, représenté par les députés élus à la majorité, et considère donc qu'une dose de proportionnelle serait bienvenue pour accroître cette diversité au sein du Parlement.
Ça, c'est le chiffon rouge, hein, la proportionnelle, la nécessité de faire en sorte que l'Assemblée parlementaire soit plus représentative. Mais attendez, ça fait des lustres que l'Assemblée nationale, les parlementaires ne représentent plus, comment dirais-je, le peuple. Je veux dire qu'il suffit de regarder la sociologie des parlementaires. Où sont les ouvriers, où sont les employés? Il y en a très peu. Hein.
Mais est-ce que malgré tout, c'est un pas dans le bon sens?
Alors, est-ce que ça va dans le bon sens? Moi, j'en suis pas sûr, pour une raison bien simple. C'est... En fait, il faut savoir qu'en France, on a été traumatisé par la 4e République et puis l'incapacité, finalement, des parlementaires de faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité politique en France. C'est-à-dire qu'il y a des changements du Conseil tous les 32 du mois.
Du fait d'un manque de capacité à établir une
cohésion,
majorité.
Hein, je veux dire, d'ailleurs, on voit effectivement les effets de la proportionnelle, c'est pas une proportionnelle, mais des coalitions qu'il peut y avoir dans certains pays, en Italie, en Allemagne, etc. Mais le problème, à mon avis, ne se situe pas là. C'est-à-dire que la preuve, il y a une modification, future modification qui est prévue dans la Constitution, c'est la possibilité de focaliser les discussions des thèmes, hein, des textes de loi, en séance publique sur un certain point, et puis le reste étant réalisé en commission. Donc, en fait, ça signifie en clair qu'un texte ne pourra plus être modifié en séance publique s'il a été arrêté en commission. Or, les commissions sont constitués au regard du poids des différents groupes parlementaires, ce qui va accentuer la représentativité des partis politiques. Et je ne suis pas sûr que les 15% de proportionnel dans l'élection va permettre à un groupe entre guillemets minoritaire, alors vous prendrez, de peser dans le cadre des commissions. Alors, je sais pas si
le Gourdon, est-ce que ça signifie qu'on espérerait arriver à 100% de proportionnel dans ce cas-là?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'il faut rapporter cette dose finalement très inférieure à ce que demande Bayrou, par exemple.
Ouais, ouais.
Au fait, à la diminution du nombre de parlementaires. Je pense que les deux choses sont corrélées.
Mmh. Donc, pour rappeler,
ça va encore dans le sens du renforcement du parti présidentiel. Enfin,
donc, dans cette réforme, on parle d'une réduction de 30% du nombre de parlementaires pour les prochaines législatives.
Je crois qu'il y a un deuxième point aussi, c'est faut voir l'implantation de ces circonscriptions. À partir du moment où il y a des grandes réformes territoriales qui sont en chantier, notamment le regroupement des agglomérations au détriment des départements.
Mmh.
Et donc tout ça joue un rôle. Et moi, je pense que le but, en fin de compte, inavoué, mais c'est d'éloigner encore plus le citoyen de ses représentants.
Mmh. Donc ce que aujourd'hui, on a au minimum 2 députés par département, à part en Creuse et en Lozère, où on n'a qu'un seul député, dans certains départements d'outre-mer. On a un sénateur au minimum par département, et donc le risque, c'est que cette baisse de 30% du nombre de parlementaires, associée à cette introduction de 15% de proportionnel, donc la proportionnelle, les élus, élus à la proportionnelle ne seront pas directement rattachés à un territoire. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Mmh.
Et donc le risque, c'est qu'on ait effectivement une perte de représentativité de certains territoires, donc a priori les territoires les moins peuplés, à l'Assemblée et au Sénat.
Vous avez formulé beaucoup, beaucoup plus clairement ce que j'essayais de balbutier.
Et je reviens sur ma question précédente. Et si on estime que l'endroit où va se passer les choses se trouvera de plus en plus dans les commissions, que les personnes présentes dans les commissions sont, les députés présents dans les commissions sont effectivement piochés au sein de l'Assemblée nationale, bah, est-ce que dans ce cas-là, on ne voudrait pas atteindre 100% de proportionnel pour que l'ensemble des partis soient représentés à la hauteur de leur part dans l'élection présidentielle?
Alors ça, c'est une vaste question, mais je vais fuir lâchement et repasser la parole à mon ami Pascal, vous le permettez.
C'est là où on voit que l'ancienneté prime sur le néophyte que je suis. J'allais, moi, lui passer le bâton,
Non,
bon. Cela dit, donc je reviens, en fait, le diable se cache dans les détails. C'est pour l'instant, cette mesure consistant à focaliser la discussion en séance publique sur un certain point et que finalement le texte principal va être travaillé en commission, la manière dont on va constituer les commissions est importante.
Mmh.
Pour l'instant, je dis qu'en fait, c'est par rapport au poids politique. Imaginez 100% de proportionnel, ben, ça reviendra au même. C'est-à-dire qu'en fait, le parti le plus représenté continuera à avoir finalement une place prépondérante en commission. Et comme on sait que les commissions sont réparties en fonction de ce poids, donc je ne suis pas sûr que c'est un mécanisme qui permettra de donner plus, entre guillemets, de démocratie et donc de capacité aux députés censés représenter leur territoire, cette parole de leur territoire plus renforcée. Il y a encore une chose qu'il convient de voir, c'est-à-dire que je dis qu'une réforme ne peut s'analyser que dans la toile de fond des réformes précédentes, c'est-à-dire que c'est une dynamique.
Mmh.
Il ne faut pas analyser une réforme d'une manière isolée, il faut la prendre dans la dynamique dans laquelle elle s'inscrit depuis ici 58. Alors, on voit bien que si la loi de 2008, loi organique, a essayer ou tenter de donner plus de poids aux parlementaires, on s'aperçoit que celle de 2014, finalement, leur a coupé les ailes.
Vous pouvez préciser un peu sur ces lois ?
Celle de 2014, c'est l'interdiction du cumul de mandats. c'est-à-dire entre maires, sénateurs, enfin du mandat électif, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a limité ce cumul-là, fait en sorte qu'un député n'ait plus différentes casquettes, ce qui lui éviterait de porter le chapeau, entre parenthèses. Donc, on les a coupés un peu de leur territoire. Donc, déjà là, ils ne sont plus représentatifs.
Pourquoi ?
Puisque, parce que il est vrai alors que certains élus cumulaient un certain nombre de mandats et avaient fait de leur activité parlementaire une profession, une carrière.
Mmh.
D'accord. Donc, si le fait de limiter le nombre de mandats aujourd'hui entre comment dirais-je de la nature entre députés, maires, etc., auquel on ajoute une limitation dans la proposition de loi des du mandat, de durée du mandat ou du cumul de mandats consécutifs.
Donc on ne pourra plus faire plus de trois mandats consécutifs.
Ouais, enfin, je veux dire que, c'est une proposition qui sera appliquée vers les années 2030. Deux, c'est un mandat qui peut être, enfin, une disposition qui peut être contournée, puisque vous pouvez faire deux mandats de député, vous arrêtez un an, vous faites maire, et vous revenez député une troisième fois. Et puis,
ça peut durer 38 ans.
Voilà,
c'était calculé.
38 ans. Donc, vous voyez que c'est... Si l'objectif et d'éviter que certains élus fassent carrière en politique, alors il y a d'autres voies qui sont possibles, telles que, par exemple, celle qui a été mise en œuvre au Moyen-Âge, les commis de confiance. Mmh. C'est quoi ces commis de confiance ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu chargé d'une certaine mission, puisqu'il a été mandaté par un village ou ici une circonscription, etc., est tenu de rendre compte, et si effectivement, ça se rapproche du mandat impératif, quoi. Si effectivement la volonté était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de carrière et que ce soit le peuple souverain qui à un moment donné demande des comptes et au regard de ses comptes s'aperçoit qu'entre ce qu'il avait promis et ce qu'il a exécuté ne correspond pas, je veux dire qu'on peut mettre un terme.
Le mandat révocable.
Le mandat révocable. Il y a d'autres solutions, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne va pas agiter des chiffons de ce type-là pour finalement détourner le problème sur d'autres mécanismes.
Il y a deux arguments qui sont souvent repris pour justifier de ces réformes qui visent à, qui ont pour conséquence probablement d'éloigner le député, le sénateur de son ancrage territorial. La première, c'est de faire en sorte ou d'essayer que l'absentéisme à l'Assemblée nationale, au Sénat, diminue. Donc, on le sait, si vous regardez un petit peu Public Sénat de temps en temps, que l'hémicycle est rarement rempli, première chose. Deuxième chose, c'est de limiter le risque de clientélisme qui peut exister envers, justement, le territoire en question. Donc, limiter le cumul des mandats à la fois en nombre et dans le temps, ça pourrait être effectivement des éléments qui iraient dans ce sens-là.
Peut-être. Là-dessus, je vous dis, je suis un néophyte. Hein, je n'ai pas suffisamment de recul pour. Mais je sais qu'effectivement, le diable se cache toujours dans les détails.
Loïc, vous avez un.
Oui, justement, à ce propos, je relèverai que l'interdiction de faire plus de deux mandats, enfin plus d'être élu deux fois, en ce qui concerne les chefs des exécutifs locaux et des partis politiques. Eh bien, renvoie à une disposition qui a été imposée par les récentes ordonnances contre le Code du travail, hein, où les représentants, par rapport aux représentants, en soumettant, si vous voulez, à cette mesure, les représentants du personnel et des entreprises.
Oui.
C'est une chose peu connue, mais tout ça, il faut effectivement mettre tout ça en perspective.
Alors, en quoi c'est un problème de couper cet ancrage territorial ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser que le député, s'il veut effectivement avoir des informations sur ce qui se passe en Corrèze, il appelle un maire, il appelle un conseiller régional, conseiller départemental, peu importe, et la personne en question lui donne des infos sur ce qui se passe en Corrèze à ce moment-là ?
Oui, mais si vous voulez, dans le fond, ça revient toujours à la même chose. Pascal a employé le mot de vassalisation, et je pense que ça revient à ça. Hein. Ce que vise l'exécutif, c'est d'avoir, comme c'est le cas de La République En Marche, des députés à sa botte. Encore que, sur cette affaire, on entend déjà quand même quelques grognements dans les rangs des grognards.
Je... En fait, on est en train de s'arc-bouter sur des mesures qui sont certes importantes, mais qui cachent aussi ou qui, comment dirais-je, malheureusement évitent, enfin, je dis évite de parler d'autres mesures qui sont dans cette réforme-là. Et je reviendrai tout à l'heure, notamment sur la possibilité d'inscrire des textes les plus urgents, sur l'accélération de la procédure en cas d'échec. En fait, il y a un certain nombre de mesures qui vont entraver le travail naturel de l'Assemblée parlementaire, enfin des parlementaires.
On y reviendra juste après la pause musicale. On est de retour sur Aligre FM 93.1, il est 8h32, vous êtes toujours sur Voix contre Oreille. Donc je suis en compagnie de Pascal Gégère, membre de l'association pour une constituante, et de Loïc Gourdon, membre du cercle, président du cercle de Nantes. Donc réforme constitutionnelle, on en parle aujourd'hui, quelque chose dont qu'on n'a pas encore évoqué, c'est est-ce qu'il y a effectivement besoin d'une réforme constitutionnelle? Quel est le but recherché?
Alors, si le but est de renforcer et de consolider la souveraineté, c'est un bien. Si le but est de l'amputer, de la limiter, et là, c'est plus condamnable. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la volonté de l'exécutif, c'est finalement... C'est comment dirais-je, mon opinion, et je la partage, ce qui est déjà bien. C'est, on voit très bien où on veut nous amener. On veut nous amener d'une souveraineté nationale à une souveraineté européenne. Mmh. Donc, et on voit bien qu'aujourd'hui, cette notion, dans ce discours sur l'Europe, on voit très bien finalement la volonté du président actuel d'aller vers cette voie-là. Le problème, c'est qu'une souveraineté ne se réfère qu'à un peuple. Alors, est-ce que nous sommes un peuple européen ? Pour l'instant, j'en suis pas sûr. Si c'est vers quoi nous devrions tendre à terme, il y a d'autres moyens que de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, aujourd'hui, on voit très bien une vision... il y a un parallèle entre le comportement actuel de l'exécutif et le comportement technocratique de l'Europe. C'est-à-dire qu'avoir un président omniscient, omniprésent, qui s'est entouré finalement d'une administration technocrate pour finalement montrer que ce sont eux les sachants et qui sont en capacité de dire ce qui est bon pour le peuple. C'est l'inverse d'une démocratie, c'est l'inverse d'une souveraineté.
Donc peut-être on pourrait revenir sur certaines mesures contenues dans cette réforme constitutionnelle qui vous amènent à penser cela. Donc effectivement, on a une hausse du pouvoir du gouvernement vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez, c'est que ce gouvernement entouré de technocrates applique notamment des choses qui puissent venir de Bruxelles, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Ou alors sur d'autres points. Pour comprendre, il faut savoir qu'il y a deux manières dans notre constitution de légiférer. Soit c'est le gouvernement, au travers du Premier ministre, qui dépose un projet de loi sur lequel les parlementaires vont discuter, entre guillemets, et on verra la manière par laquelle les moyens leur sont donnés pour discuter se limite de plus en plus, ou alors ce sont les parlementaires eux-mêmes qui se saisissent d'un projet, et on appelle ça une proposition de loi. À l'origine, dans notre Constitution, il y avait un certain équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, c'était que 50% des textes soient des projets de loi et 50% des propositions de loi, donc gouvernement ou parlementaire. On s'aperçoit en réalité qu'on est plutôt sur 90% de projets de loi, donc c'est le gouvernement,
proposé par le gouvernement.
Qui propose des lois, et 10% des parlementaires. Et on voit que la manière dont on organise le travail des parlementaires va diminuer considérablement leur capacité à être force de proposition de loi.
Donc quelques éléments là-dessus qui sont présents dans la réforme. Donc le gouvernement pourra inscrire, par exemple, plus facilement à l'ordre du jour des assemblées certains projets de loi qu'il juge prioritaires, par exemple.
D'inscrire, effectivement, la possibilité d'inscrire des textes les plus urgents ou les plus importants en priorité à l'ordre du jour. Bon, c'est ça, donc c'est bien ce que je dis. Ça veut dire qu'en fait, on va finalement mettre dans l'agenda de l'Assemblée des textes qui, au départ, n'étaient pas prévus et qui ont été inscrits par le gouvernement. C'est un danger. Le danger, on va légiférer, à l'émotion. Il va se passer quelque chose, vite une loi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de réfléchir sur un certain nombre de raisons qui font qu'on arrive à ce problème-là, on va légiférer tout de suite. Donc on va accumuler un certain nombre de lois. Donc ça, c'est important. On va, là également, accélérer la procédure de l'échec d'une commission mixte paritaire. Alors ça, le problème, c'est qu'il faut savoir que pour qu'une loi puisse être votée, il faut qu'elle soit écrite à l'identique au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc il y a ce qu'on appelle la navette. Mmh. Donc là, on va dire, si finalement, face à une loi, il y a différence d'appréciation entre les deux assemblées, on va accélérer cette procédure. Mais je pense que aujourd'hui, dans l'arsenal législatif, il y a suffisamment de mécanismes qui permettent cette procédure. Il n'y a pas lieu d'en rajouter une autre. Et puis il y a un truc extraordinaire. Peut-être que Loïc pourra nous le dire, mais il y a un truc extraordinaire, c'est la limitation des amendements sans portée normative. Je vois mal finalement faire des laisser la possibilité de les amendements sans portée normative. Je pensais que tous les amendements devaient avoir une portée normative. Donc cette introduction là finalement on va s'apercevoir finalement qu'elle est sans intérêt.
L'idée, c'est d'accélérer les débats en considérant que certains amendements qui n'ont rien à voir avec le texte de loi, ce qui peut parfois arriver, notamment à l'Assemblée nationale, ne soient plus déposés.
Oui, mais il me semble que ça avait été prévu déjà dans une loi organique en 2009. Et puis, concrètement, il y en a très peu. par rapport aux autres.
Une question qu'on pourrait se poser, c'est que vous opposez ce qui peut venir du gouvernement, ce qui peut venir de l'exécutif et ce qui vient effectivement du législatif. Une question qu'on pourrait se poser, c'est une vision qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, finalement, le gouvernement, l'exécutif a lui-même été élu au suffrage universel direct. Bon, il est aussi légitime à proposer des textes de loi que l'Assemblée nationale. Pourquoi ça, ce n'est pas le cas?
Loïc nous l'a dit tout à l'heure, l'exécutif, vous parlez du président, il a été élu finalement, quand on regarde la manière dont se sont passés le premier et le deuxième tour, il a été élu qu'à 18% des inscrits, mm-hmm. si on gomme tous les bulletins nuls, etc., etc. 18% des électeurs. Deuxième tour, opposition entre deux personnes, j'allais dire totalement opposées, Front National et puis La République En Marche. Il est évident que les gens se sont reportés sur La République En Marche. Le problème, c'est que le président n'en a pas tenu compte. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que son programme a été adopté par l'ensemble des populations. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Emmanuel Macron, il fait ce qu'il a dit. Il fait, cette réforme-là, elle était prévue dans son agenda.
À part notamment la réforme ferroviaire. Mais Loïc Gourdon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le pouvoir de l'Assemblée nationale, finalement, est plus justifié? Ou en tout cas, le fait que l'Assemblée nationale s'occupe effectivement du législatif, et donc propose des lois, même si en principe on s'y attend, dans les faits, c'est visiblement pas suffisamment le cas. Donc en quoi l'Assemblée nationale, elle serait plus légitime, puisque l'Assemblée nationale est également composée d'élus eux-mêmes élus à la majorité, mais sur des échelles plus petites.
En fait, ça tient à l'historique de l'élaboration des lois. Moi, il me semble que les députés étant plus près des aspirations populaires, théoriquement, en tant que représentants, ils sont plus fondés à proposer des lois que l'exécutif qui ira dans le sens qui lui convient.
Et il faut savoir que cette loi de 2002, qui a inversé le calendrier électoral, fait que finalement, si les parlementaires En Marche sont là, c'est ils le doivent au président. Point. Et donc, à ce niveau-là, ils ne peuvent que renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire quand ils ont, sur la dernière loi là, ou proposition de loi concernant l'asile, on a bien vu l'amorce d'une fronde des députés La République En Marche, tout de suite finalement recadrée. Et ils vont signer comme un seul homme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de discussion majeure.
On se rappelle également les frondeurs dans le quinquennat.
Ce qui se pose aujourd'hui, c'est quel est le poids que peut avoir le Parlement sur la conduite de l'exécutif. Il y a deux choses, moi, qui me, au-delà de cette réforme-là, qui me chagrine, et c'est un terme petit, c'est la capacité aujourd'hui qui est donnée au président de la République d'intervenir militairement sans en référer au Parlement. Mmh. C'est la capacité de tenir des discours qui finalement va à l'encontre de la loi de 1905. Ça me gêne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que il y a la capacité aujourd'hui qui est donnée à un président de finalement faire passer ses idées au détriment des idées véhiculées par la Constitution.
M'essayer à développer ce point parce que c'est quelque chose de très important. Auparavant, quand même, je pense qu'il faut voir un peu quand même la nature des institutions. L'usage abusif du 49-3 est aussi quelque chose qui est véritablement fait pour contrevenir et aux décisions du législatif.
Donc 49-3, on rappelle, qui consiste à légiférer par ordonnance, par l'exécutif.
C'est ça. Et on a vu ce que ça donne. Et notamment par rapport à une partie de la nation dont on tient très peu compte. Mm-hmm. C'est-à-dire celle qui essaye, comme elle le peut, de défendre ses droits. Mm-hmm. Donc je voulais en revenir au discours des Bernardins, étant entendu que ce n'est pas la première intervention sur la laïcité d'Emmanuel Macron,
ouais.
qui qui est intervenu devant l'Assemblée des protestants, j'ai plus le terme en tête, et puis devant le CRIF, mais là, devant l'Assemblée des évêques, on en arrive, en fin de compte, à sa vision de la laïcité, et sans doute aussi quelque part des institutions, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de 1905 est une loi constitutionnelle, qu'on le veuille ou non.
Tout à fait.
Que je sache, dans l'article 1er de la Constitution, on dit « la France est une république indivisible, laïque, sociale, etc.
» Oui, donc ce discours faisait effectivement un petit peu peur.
C'est très significatif parce que, on voit véritablement non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il est. C'est-à-dire comment sa culture... son histoire personnelle, eh bien, joue un rôle considérable dans la façon dont il veut transformer la société française et la République.
Pour revenir sur la réforme constitutionnelle, il y a quelque chose qui est intéressant dans la façon dont c'est présenté et qui est paradoxal à la fois, c'est qu'on entend beaucoup Larcher, notamment Macron, le gouvernement, parler de rétablir, une volonté de rétablir la confiance dans les institutions. Et c'est tout à fait paradoxal de voir qu'effectivement, en réalité, ce qui se passe, c'est une diminution du pouvoir de l'Assemblée nationale que vous nous présentez comme a priori plus proche des gens, donc dans laquelle la population devrait avoir plus confiance, puisqu'elle incarne mieux la souveraineté populaire, a priori.
Ça, c'est...
A priori, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Ouais.
Donc, si vous permettez, j'en reviens à ces propos, liminaires au Bernardin.
Ouais.
Je suis convaincu que les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme se sont forgés dans ces moments où est vérifiée la valeur réelle des hommes et des femmes, etc., et de parler... de l'Union sacrée de 1914, on sait où ça a mené, aux résistants de 40, bon, très bien, des pères de l'Europe, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, savoir Jean Monnet, ses rapports avec la CIA, etc., etc., et les inventeurs du syndicalisme moderne. Le syndicalisme moderne, c'est évidemment la CFDT et consorts, c'est-à-dire inspiré par la doctrine sociale de l'Église.
Ouais.
Donc, tout cela, c'est pas étonnant. Parce que il faut en revenir à ces humanités, c'est-à-dire Ricoeur et Mounier. Alors il faut savoir que Mounier a été l'inspirateur jusqu'en 1942, à Uriage, de l'école de formation des cadres de Vichy. Tiens donc, avant de se convertir à la gauche après la libération. Quant à Ricoeur, lui a écrit dans la revue pétiniste « L'Unité française ». Et puis, il s'est après rangé sous la bannière des personnalistes catholiques de Mounier. Et puis, le troisième larron dans l'affaire, c'est le père Henri Dolubac, qui a été lui aussi formateur à Uriage. Vous voyez, les liens sont forts. Hein. Et donc, ce sont les inspirateurs de la pensée laïque, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Alors, à ce sujet, donc, il a donc demandé aux évêques de s'investir toujours plus dans la vie politique. C'est quelque chose d'absolument insensé. C'est une violation très nette de notre Constitution. D'abord, ils ne se gênent pas pour le faire, étant donné qu'ils sont déjà présents dans certaines institutions, notamment les comités de bioéthique, et même dans certains comités qui élaborent les lois sociales. Donc, on ne peut pas dire le lien n'a jamais été rompu. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de lien, puisque de toute façon, que je sache, l'Église et l'État sont séparés. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, en fin de compte, à mon avis, de mon point de vue, ce qui essaye d'être mis en place, c'est un ordre corporatiste. Et cet ordre corporatiste ne peut être établi sans la collaboration active de de l'Église catholique et de des organisations qu'elle contrôle. Donc voilà. Donc c'est en ce sens-là que c'est grave. C'est pas des affaires de foi, encore qu'il conviendrait de distinguer la hiérarchie catholique et les pratiquants du culte. Voilà. Mais c'est sur le plan des institutions qu'il faut voir ça. L'Église catholique est un organisme de droit privé et ce n'est plus un un établissement public de culte, ouais, comme c'était au temps du Concordat.
Donc, ce que là où je relais le discours, le propos que vient de tenir Loïc, c'est quelle est la capacité aujourd'hui que l'on donne au Parlement de contrôler, à un moment donné, des postures présidentielles ou des postures de l'exécutif. C'est-à-dire que on s'aperçoit que aujourd'hui, au-delà de ces réformes constitutionnelles, c'est au-delà finalement de la capacité d'un État à avoir un pouvoir de coercition en écrivant son droit, et on s'aperçoit en fait que son droit aujourd'hui, il n'est pas forcément écrit au bénéfice de ce peuple souverain, mais dans une tendance évolutionniste vers des compétences que l'on va donner à d'autres pour guider finalement le peuple français. Donc ça me gêne fortement. Je pense que ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que au-delà de cette vision-là, on arrive vraiment à confier, entre guillemets, l'écriture constitutionnelle à des technocrates qui ont leur propre vision, hein, une vision aujourd'hui néolibérale.
Donc technocrates qui conseillent le gouvernement.
Oui, c'est-à-dire que quand on voit comment les membres du gouvernement sont entourés aujourd'hui, ce sont des experts, ce ne sont pas des hommes politiques. C'est-à-dire que avant, finalement, on avait quand même, c'était bien, ça pouvait être critiqué, c'était critiquable forcément, mais autour des ministres, il y avait quand même, ou les ministres déjà étaient des élus de longue date, il y avait quand même des gens qui gravitaient autour de finalement de la politique d'une manière, comment dirais-je, plus profonde qu'aujourd'hui, on n'a que des experts. Autour d'Emmanuel Macron, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des énarques qui ont une vision, entre guillemets, scientifique des problématiques et essayent de les imposer. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la politique, c'est d'abord une histoire aussi de cœur, de mental que de connaissance. Hein, c'est cette vision qu'il
faut voir. On le sait très bien, non, on le sait de moins en moins.
On le sait de moins en moins. Il y a une chose également que je voulais dire... sur ce que, Clément, vous avez dit tout à l'heure, à savoir la posture de Larcher. Il faudrait quand même éviter de tomber dans le piège tendu qui consiste finalement à faire de l'anti-parlementarisme primaire. C'est-à-dire que disant, puisque finalement sont entre guillemets des gens qui nous coûtent cher ou des gens qui sont arc-boutés sur leur vision étriquée de la politique, eh bien on va limiter et corseter leur manière d'agir. Ben, ça c'est un chiffon rouge qui n'est pas admissible. Et d'ailleurs moi je vous envoie au texte qu'a écrit récemment le 15 mars André Bellon sur le site Pour une constituante sur la stratégie de la culpabilisation, qui montre bien vers quoi on veut ce qu'on veut nous faire croire au niveau des députés et des parlementaires, coûte cher, c'est pas le comment dirais-je, ce sont pas des personnes dont la probité est constante. On parlerait plutôt d'incompétence et d'improbité. Je pense qu'il faut relire ce texte qui montre que le problème n'est pas là. Certes, il y a quelques-uns qui, comme dans toute société, qui portent l'opprobre, mais ce n'est pas toute la majorité des représentants du peuple. Donc, je pense qu'il faut, relire finalement cette constitution cette constitution et les différentes réformes qu'elle a générées, et la réforme qu'on veut nous faire croire, je pense qu'on nous amène tout doucement vers le fait que demain, le peuple français ne sera plus souverain. Cette souveraineté, il va la partager avec d'autres. Aujourd'hui, il la partage avec des technocrates non élus de Bruxelles. Et demain, ça va s'amplifier. Je crois que le danger est là. C'est-à-dire qu'on dépossède aujourd'hui le peuple français de sa capacité à gouverner.
Il faut se rappeler aussi que le président de l'Assemblée nationale, donc, qui a intégré le parti La République En Marche, donc qui devrait être un exemple de probité, on se rappelle qu'il s'était engagé au moment des primaires socialistes à soutenir le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Donc, en termes de probité, si le président de l'Assemblée nationale lui-même fait finalement une sorte de parjure, c'est problématique. Une question qu'on pourrait se poser, c'est la mesure dans laquelle on peut accéder à un surcroît de souveraineté populaire dans le cadre de notre constitution. Par exemple, si on en vient à l'intervention en Syrie, Plenel a interrogé Macron au moment du débat récent sur ce choix fait d'intervenir sans consulter le Parlement, et Macron lui répond mais ça c'est un choix constitutionnel. La Constitution me pose comme chef des armées, par exemple. Enfin, je prends cet exemple de la Syrie. La Constitution me pose comme chef des armées. Je suis tout à fait dans mon droit. J'ai la possibilité de décider unilatéralement avec les membres de mon gouvernement d'intervenir, et je le fais. Donc ce qu'on voit là, c'est que finalement la Constitution elle-même limite cette souveraineté populaire en octroyant tant de pouvoir à l'exécutif et au président.
C'est en ça que je dis qu'une Constitution n'est pas un texte figé, intangible. Il faut savoir quand cette disposition a été prise, c'était en 62, les accords d'Évian. C'est-à-dire qu'on sortait finalement de ce que l'on ne voulait pas reconnaître comme une guerre, mais un maintien de l'ordre. C'est ce qui se passait en Afrique du Nord. Donc il y a un personnage qui est Charles de Gaulle, qui avait une certaine vision de la France, et une vision de la laïcité aujourd'hui dont certains pourraient bien s'inspirer. On aime ou on n'aime pas le grand Charles, mais en tout cas, il avait cette vision-là. C'était un ancien militaire qui avait connu des époques troubles, qui avait une connaissance de la manière dont tous ces événements se sont enchaînés et les conséquences pour la République française en 40 et en 62. Donc il a instauré ces mécanismes-là qui pouvaient, correspondre à l'époque concernée. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde bipolaire, on est dans un monde multipolaire avec une tentative d'influence d'un bloc occidental porté par les anglo-saxons et puis un bloc un peu désagrégé qui est porté par des courants religieux et puis de l'autre côté, un bloc, soviétique. Un bloc de pays de l'Est, notamment de la Russie. Donc aujourd'hui, il conviendrait, plutôt que de s'allier à une vision qui n'est pas la nôtre, vision anglo-saxonne, vision américaine, il conviendrait de revoir cette posture-là. C'est vrai qu'il semble aberrant aujourd'hui qu'une seule personne, d'ailleurs Hollande s'en est vanté récemment en disant qu'il aurait bien voulu aller faire des frappes en Syrie, il en avait la possibilité puisqu'il était le seul à pouvoir décider sans en référer à qui que ce soit, et il trouvait ça comme étant quelque chose entre guillemets de merveilleux. Mais je pense que ça, c'est dangereux. Je veux dire qu'aujourd'hui, il faudrait renforcer le contrôle du Parlement et non pas finalement le déposséder de ses outils de travail. Il faudrait renforcer la représentativité, mais cette représentativité, elle ne peut être finalement renforcée par les mécanismes aujourd'hui, bien au contraire, qui ont été mis en place par les lois constitutionnelles et organiques précédentes et qui sont aggravées aujourd'hui par la proposition de réformes constitutionnelles, enfin institutionnelles, que l'on souhaite faire. Donc, ce mécanisme-là, et par exemple, j'ai introduit en disant qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, c'était une constitution plutôt basée sur l'ordre coutumier, mais rien ne peut être fait sans l'avis du Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui, à un moment donné, a la possibilité de revoir les choses. C'est à sa main que sont faits les éléments. Et été rappelée à l'ordre sur la décision qu'elle a prise, sans en référer au Parlement, d'aller faire des frappes en Syrie. Donc elle n'aurait jamais dû théoriquement, au regard de la législation anglaise, avoir cette initiative personnelle. Mmh, c'est toujours le Parlement qui décide d'eux. Bon, en France, c'est pas le cas, et ça fait partie là des réformes essentielles qu'il conviendrait de faire. C'est-à-dire, comment, à un moment donné, remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village et faire en sorte que ce soit les parlementaires qui puissent avoir un contrôle aussi sur l'action gouvernementale, et non pas l'inverse.
Le problème, c'est est-ce possible dans, sous le régime de la Constitution de 58.
Alors, merci.
La réponse est non.
Merci de donner cette transition. Je pense que, à force de mettre des rustines plus ou moins déficientes sur la Constitution par des réformes successives dont on voit très bien qu'elles amputent la souveraineté du peuple, ben, il faudrait peut-être réfléchir sur la mise en place d'une assemblée constituante en capacité de réfléchir sur les nouvelles institutions qu'il conviendrait de mettre en œuvre au regard finalement de l'évolution et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec une vision naturellement forte qui consiste à dire ben, quelle est la vision du peuple français, la vision idéologique, c'est doit-on aller sur une vision néolibérale, ce qui se passe aujourd'hui, recentrons-nous sur une vision type justice sociale telle que le Conseil national de la résistance a pu à un moment donné élaborer, inspiré par la déclaration de Philadelphie. Donc il y a là finalement matière à réfléchir et de voir comment demain, plutôt que de faire des réformes successives, ben, revoir considérablement la Constitution par l'élection d'une assemblée constituante.
Donc de manière à accroître le pouvoir du Parlement. Si on vous suit bien.
Accroître le pouvoir du Parlement et dans le cadre de la souveraineté du peuple.
Et la représentativité donc de la volonté populaire, qui tout aujourd'hui va de manière décroissante au vu des différentes réformes qui se suivent.
C'est tout à fait ça.
On avait d'autres points sur les réformes, mais le temps passe. Hein, finalement,
le temps passe.
Je pensais pas pouvoir parler autant sur la Constitution, un sujet qui m'était un peu étranger jusqu'à présent, mais je trouve que c'est intéressant et je demande aux citoyens entre guillemets de regarder un peu cette Constitution qui n'est pas difficile à lire, mais qui leur permet de comprendre que on est en train de les déposséder.
Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux.
Et merci Loïc.
Merci Loïc.
Je t'en prie.
Et pour nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une émission toujours dans Voix contre Oreille sur le traitement des grèves par les médias.
Des blocs polis, des pierres, des marbres polis. C'est violetterie parce qu'il disait que quand ces formations rocheuses, ces formations minérales qui représentent tous les principes.